10h06.
Chapitre 116. Le cachalot à l'agonie.
Il n'est pas rare dans cette vie que, se trouvant encalminé tandis que les favoris de la fortune passent à proximité de votre bord, l'on attrape un peu de la risée et que l'on sente alors joyeusement ses voiles creuses se gonfler. Tel parut bien être le sort du Pécode, car le lendemain de notre signalée, quatre furent tués, dont une par Arcab. L'après-midi était bien avancé, et lorsque les jets de harpons eurent fini d'empourper le combat, et que, flottant dans la mer et le ciel du couchant, le soleil et le cachalot eurent expiré ensemble, silencieusement montrèrent dans l'air teinté de rose tant de douceur et de douleur une telle guirlande d'oraison que l'on aurait pu croire que, venu des couvents cachés dans les vertes vallées de l'île philippine, la brise de terre espagnole, capricieusement changée au vent marin, s'en était allé vers le large chargé de ses hymnes de vêpres. Akab, rasséréné, mais seulement pour se laisser gagner par une plus noire humeur, s'était écarté du cachalot et suivait avec attention, de sa pirogue maintenant tranquille, les mouvements ultimes. Car cet étrange spectacle que l'on peut observer chez tous les cachalots agonisants, la tête se tourne vers le soleil au moment de mourir. Cette vision qui s'offrait ainsi dans la paix du soir possédait pour lui, d'une certaine façon, le caractère d'un prodige alors inconnu. Il se tourne et se retourne vers lui, combien lentement, mais avec quelle constance, et dans ses derniers soubresauts, lui présente l'hommage et les invocations de son front. Lui aussi adore le feu, ses très fidèles barons, ce robuste vassal du soleil. Oh, ses yeux, juge si peu équitable, découvrent ainsi des scènes qui le justifient. Voit, cerné de tous les côtés par les eaux, loin du plus faible murmure de bonheur ou de malheur des hommes, dans ces mers candides et impartiales où nul rocher ne fournit des tablettes aux traditions, où, depuis des siècles longs comme de millénaires chinois, les vagues ne cessent de rouler. Sans rien dire, sans entendre aucune voix humaine, telles les étoiles qui brillent sur la source introuvable du fleuve Lunijé, ici aussi la vie meurt dévotement tournée vers le soleil. Mais vois, à peine trépassée, la mort fait virer le cadavre et dirige sa tête d'un autre côté. Ô toi, l'Indienne, ténébreuse moitié de la nature, toi qui t'es construit, quelque part au cœur de ces mers infertiles, un trône solitaire fait de eaux et des noyers. Tu es une infidèle, ô reine, et tu ne parles que trop clairement dans les vastes déchaînements du chiffon destructeur et les funérailles muettes du calme qui lui succède. Et si ce tien cachalot a tourné vers le soleil, sa tête mourante avant de reprendre son mouvement circulaire, la leçon qu'il me donne n'a pas été sans effet. Ô flanc puissant trois fois cerclé et corroyé, ô l'arc-en-ciel du souffle qui respire à la lune, cela s'efforce, celui-ci fuse, mais tous deux en vain. Car c'est vainement, au cachalot, que tu cherches l'intersection du soleil, l'universel vivificateur, qui appelle à la vie mais ne la rend point. Pourtant, tes rythmes berceurs, ténébreuse moitié du monde, entretiennent en moi une foi plus fière, si elle est plus sombre. Tous tes indicibles emmêlements flottent ici sous moi, et je suis porté à la surface par les haleines d'êtres autrefois vivants, air changé en eau. Salut donc, salut à jamais, ô mer, dont les houles éternelles offrent à l'oiseau sauvage son seul repos. Né de la terre, mais nourri au sein de l'océan, Simon et Vaux ont été pour moi une mère, vous êtes, ô flot, mes frères de lait.